6h03, nous sommes jeudi 4 mars. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'abord, prévision météo intéressante. On a un ciel couvert ce matin, c'est autour de moins 6 degrés. Et on prévoit une journée marquée par une alternance de soleil et de nuages. Maximum prévu, ce qui va demeurer stable, c'est-à-dire moins 6 degrés. En soirée, couvert. Il y aura un peu de neige, mais pas d'accumulation, avec un minimum de moins 13 pour la nuit prochaine, demain vendredi. Le matin, on a quelques flocons. Encore là, pas véritablement d'accumulation, un peu de temps gris. Le maximum pour la journée, moins 7 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, moins 15. Et l'aperçu pour la fin de semaine, on prévoit du beau temps. Samedi, soleil-nuage, moins 6. Et dimanche, ensoleillé et moins 5 degrés. Vraiment, là, les prochains jours, mis à part peut-être ce soir et un peu demain matin, ben, c'est beaucoup de soleil, puis des températures quand même assez confortables. On va parler des annonces faites hier à Québec. Le Grand Montréal, le très Grand Montréal, qui demeure zone rouge, alors qu'on passe en code orange pour des régions comme celle de Québec, par exemple, Chaudière-Appalaches et d'autres. Mais avant, je veux revenir sur la violence faite aux femmes. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu 5 cas de femmes assassinées en moins d'un mois au Québec. Et c'est sûr que dès qu'il y a un drame, il y a toujours des commentaires qui s'expriment sur la place publique d'élus et d'autres personnes, là, mais en disant « plus jamais ». À chaque fois, on entend ça. Hier, j'ai trouvé qu'à Québec, le premier ministre Legault avait envoyé une ligne intéressante en disant « il faut que les gosses parlent, il faut qu'on parle à nos fils, il faut qu'on parle à nos chums et il faut qu'on soit capable de faire face à cette réalité. » Parce que la violence peut avoir de multiples formes. J'écoutais la ministre Isabelle Charest qui disait hier être inquiète et être, bien sûr, très préoccupée de toute cette violence. Puis en même temps, tu découvres que, encore une fois, les centres d'hébergement, les organismes d'aide, tant pour ce qui est des femmes victimes de violences que pour des hommes violents, sont toujours dans des situations précaires. On le sait que la pandémie a amené, disons, beaucoup de détresse mentale, détresse psychologique et une augmentation des tensions. Lorsqu'on regarde les statistiques, je cite la presse ce matin de la sécurité publique, on voit qu'il y a environ 12 homicides en contexte de violence conjugale au Québec. Ça, c'est par année. On est déjà rendu à 5. Et on découvre également que ce n'est pas un phénomène là, québécois, que cette violence existe ailleurs. Et quand je vous parle de la difficulté d'avoir des ressources, il y a au moins 10 000 demandes d'aide qui ont dû être refusées à travers le Québec en 2020 par 36 établissements qui font partie de ce réseau des centres d'hébergement pour femmes, les Maisons de l'Ancre. Ce matin, on va parler avec deux hommes qui ont suivi des thérapies pour violences familiales, conjugales. On ne donnera pas les véritables identités, mais notamment, il y en a un qui s'appelle Jean, là, pour les besoins de l'entrevue tantôt. 48 ans, il a deux filles, 17 et 15 ans, il était en couple avec la mère des enfants et il faisait des crises. Et dans les périodes les plus troubles, ben, ça se traduisait par des crises verbales, des engueulades, des menaces psychologiques, des pétages de coche. Il se poussait, il revenait et à quelques reprises, il y a des coups qui ont été échangés. Et après un épisode extrêmement violent, son épouse l'a mis à la porte en lui disant « c'est terminé ». Et c'est sa femme qui l'a confronté en disant « tu reviens pas là. Moi, je ne tolère pas cette violence. » Et ça a forcé une prise de conscience. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il dit. C'est un des invités tantôt. C'est que quand les gens y vont par eux-mêmes, suivre une thérapie, ça peut fonctionner. Faire prendre conscience de l'impact de cette violence, puis en même temps, de se donner des mécanismes pour mieux gérer sa colère. Ça, c'est le terme consacré. Mais quand ça t'est imposé, c'est comme une forme de thérapie pour une dépendance quelconque, ça marche pas. Si tu veux pas arrêter de boire, si tu veux pas arrêter de te doper, si tu veux pas arrêter cette violence intérieure, ben, je peux pas rien faire pour toi tellement. Donc, je pense que c'est important d'écouter ce que ces gars-là qui sont passés par des épisodes de violence extrême. Là, il y en a un qui dit, moi, j'ai tellement défoncé de porte que le quincaillier me connaissait. Parce que je pétais ma crise, puis je fais ça dans la porte, puis on va aborder cette question-là tantôt. Maintenant, parlons des annonces hier à Québec. Montréal, ça demeure rouge, puis là, on met de l'orange autour. En gros, c'est quoi? 40 % du Québec en mode orange, puis le reste, ben c'est en rouge. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Parce que on a compris que les variants préoccupent. J'écoutais Dr Drouin de la Santé publique de Montréal, une augmentation du nombre de cas chez les plus jeunes. Là, on regarde le retour à l'école la semaine prochaine, après la période de relâche. La grande question, comment les Québécois se sont-ils comportés? Est-ce qu'il y a eu, comme durant la période de Noël, des entorses ou est-ce que les gens ont été plutôt prudents? Puis est-ce qu'on a vraiment pu limiter les rassemblements? Bonne question. Il y a des gens qui m'envoient des photos de centres de ski. C'est sûr, il fait beau. C'est le mois de mars à la fin février. Puis oui, les gens vont aller sur les pentes de ski puis dans les sites touristiques. Pis c'est vrai qu'il y a bien du monde. Alors, ça va être quoi l'impact de tout ça? Et c'est relié, on le sait, avec en parallèle le vaccin. Donc, d'un côté, le variant qui fatigue, puis l'autre bord, les vaccins qu'on n'a pas en quantité, suffisante là, pour avoir une vraie cadence, mais les stocks augmentent, puis on est capable de vacciner. Puis on a décidé de prolonger d'un mois la fameuse deuxième dose. Et c'est une approbation faite par des scientifiques à travers le Canada. Ce que je veux dire, c'est pas juste l'initiative de Québec, là. La première fois, c'était Québec qui a décidé de retarder la deuxième dose. Ça a grincé des dents, mais on a vu les autres provinces faire la même chose. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plus de gens qui vont se faire vacciner, là. Hier, à Québec, le ministre Dubé parlait de 250 000 personnes qu'on va pouvoir vacciner plus vite. La question, c'est qui on vaccine? Est-ce qu'on garde les mêmes priorités? Les groupes d'âge? Puis je pourrais vous faire une liste assez longue ce matin de gens qui lèvent la main, qui sont dans le réseau de la santé puis qui ne sont pas considérés. Je pense à des techniciens en radiologie, là, qui disent, nous autres, on n'est pas vaccinés en priorité. Je pense à des gens qui ont à la maison de jeunes adultes lourdement handicapés ou encore qui accueillent des jeunes handicapés, tu sais, dans la mi-vingtaine, début trentaine, qui ont parfois une série de problèmes de santé. Je pense également aux gens atteints de cancer. Il y a un monsieur qui m'a écrit, sa femme suit des traitements. Puis sa phrase résume tout en disant, y a-tu moyen de l'aider dans cette bataille contre la COVID, déjà qu'elle se bat contre le cancer? Puis elle peut-tu recevoir son vaccin en allant à l'hôpital pour son traitement de chimio? Maudite bonne question. Donc, est-ce qu'on va revoir les priorités de vaccination ou si on y va toujours en fonction des travailleurs première ligne, puis en même temps, en fonction du groupe d'âge? Il faut dire que ça donne des résultats dans les centres de soins de longue durée parce que la pandémie frappe nettement moins dur qu'au printemps dernier, qui a été une catastrophe. Mais ce que ça montre ici, puis dans les analyses qu'on peut faire ailleurs, c'est que le vaccin donne des résultats et que si la COVID se manifeste encore, les effets secondaires sont quand même nettement moins importants. Et ça, je pense que c'est quand même important de le souligner. Parlons de ce que ça veut dire être en zone orange et en zone rouge. Pour Montréal, là, pas grand-chose qui change à court terme. Couvre-feu maintenu, les restos peuvent pas ouvrir les salles à manger, les gyms demeurent fermés. En parallèle, Québec dit, ben, on va permettre les activités parascolaires, parce que ça se passe dans le cadre de l'école, puis c'est plus facilement encadrable. Puis on a un plan pour le sport. Le sport est devenu un enjeu, là. Et j'ai hâte de voir exactement comment on va l'articuler, puis on comprend qu'il va y avoir des mesures. Mais ça presse. Sérieusement, là, il y a une urgence que des jeunes bougent. Le beau temps s'en vient. Ça fait des mois que le confinement dure, puis qu'on... Non seulement on installe les jeunes devant des écrans beaucoup plus longtemps qu'avant, Mais il n'y a pas que des sportifs d'élite là, qui s'expriment comme Michael Kingsbury. Il y a plein d'autres. Là. Puis il y aura une manifestation à Québec également dimanche. Et là, François Legault dit qu'il s'en vient la semaine prochaine avec un plan. On va également permettre l'ouverture de salles de spectacle progressivement dans les zones orange puis dans le rouge également. Il y aura des entraînements individuels, des cours privés dans les gyms. Donc, tout ça va se faire par étapes, mais c'est un retour, disons, à une certaine normalité. Puis l'autre chose qu'on va se le dire, là, et si je fais le calendrier, on change d'heure le week-end, pas en fin de semaine, l'autre. Fait qu'un couvre-feu, là, alors que la clarté s'impose, puis que le beau temps s'en vient, puis que les températures vont monter, ça va être pas mal plus difficile. On est tous écœurés, on a tous hâte de prendre l'air. Qui ne rêve pas du moment où tu pars puis tu t'en vas sur une terrasse, prendre un repas, prendre un verre, puis dans un environnement, disons, qui va amener à relaxer un peu. C'est pas d'être, je pense, capricieux, tu sais, de demander bien des choses, là. Grosso modo, les Québécois sont quand même assez disciplinés. Ben oui, t'as une coupe de bozo, là, comme dans n'importe quoi, mais à date, ça suit, là. Donc, changement d'heure, c'est un facteur. Ça va être quoi l'impact du retour en classe? Là, on voit beaucoup de jeunes, puis on voit que les variants, il y en a pas mal, là, puis que le nombre de cas augmente énormément, puis ils ont des projections qui laissent croire que ça pourrait devenir vraiment problématique. Les 4 prochaines semaines, les 6 prochaines semaines vont être quand même assez plate, si on veut, là, pour les gens de Montréal. Mais il faut qu'il se passe de quoi après, là. Puis en parallèle, on vaccine, comme je le disais. Puis on va reparler avec le docteur Arruda, qui sera notre invité tantôt, de cette opération de vaccination, là. Puis tu sais, le vaccin AstraZeneca, les gens disent pas qu'il est pas bon. Est-ce qu'il est plus efficace pour une catégorie de la population que d'autres? Il y a des études qui laissent peut-être croire que oui, d'autres qui disent « attendons ». On n'a que des données préliminaires pour les gens plus âgés. Mais est-ce qu'on modifie la stratégie de vaccination? Et d'ailleurs, je vous disais tantôt que c'est très variable comme choix. Exemple, le Nouveau-Brunswick qui compte vacciner les 16-24 ans avant les gens dans la soixantaine. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est sûr qu'on y va avec les plus vieux, donc les gens les plus vulnérables qui risquent, s'ils sont malades avec des complications, de se retrouver dans le système de santé. Mais les jeunes qu'on veut vacciner de 16 à 24, ça c'est une théorie qu'on entend depuis déjà plusieurs mois, sont ce qu'on appelle en anglais des super spreaders, c'est-à-dire des gens qui sont en contact et qui peuvent contaminer beaucoup de gens. Alors, ça fait en sorte que ces jeunes qui véhiculent le plus le virus, qui sont des grands transmetteurs, là, ben, sont évidemment protégés plus rapidement. Puis on peut discuter, là, faire un débat là-dessus, mais quand même, il faut souligner que c'est l'orientation qui a été décidée au Nouveau-Brunswick. Alors, ça fait pas mal le tour, je sais, et on est tous écœurés, là, mais c'est clair que les prochaines semaines vont être encore, disons, un peu moroses. Puis il faut trouver des motivations puis des choix autrement. Mais il faut qu'il y ait... Là, ça peut pas... On peut pas à Québec juste nous dire la lumière est au bout du tunnel, c'est la fin du marathon, parce que là, ça fait un bout de temps qu'on nous raconte ça, là. Mais l'effort combiné des mesures, la vaccination, on va peut-être finalement se retrouver avec, disons, une façon plus agréable de vivre. Bon, dans les autres nouvelles, ce matin, il y a quand même des choses intéressantes. D'abord, vous dire que les cas d'inconduite au sein des forces armées canadiennes soulève beaucoup de questions. On a appris que l'ex-chef de la défense, le général Vance, qui a quitté, puis après ça, on a appris des allégations concernant son comportement, notamment avec des subalternes. Ben, il semble que le ministre était au courant de ces allégations depuis longtemps et qu'il n'aurait pas fait grand-chose. Et on a attendu que le général Vance parte. Alors, la nouvelle est tombée hier. Entre-temps, aux États-Unis, deux choses ce matin à retenir. D'abord, le président Biden qui, si je parle toujours de vaccination, dit que tous les Américains vont être vaccinés d'ici le mois de mai. Deuxièmement, il y a au Texas, au Mississippi, on laisse tomber les mesures sanitaires. Le masque, oubliez ça, c'est terminé, il n'y a rien d'obligatoire. Back to business, puis on reprend la vie. Le président Biden dit que c'est un geste préhistorique et que ses gouverneurs ne tiennent pas compte de la science. Et qu'en faisant ça, ben, on va se retrouver avec des éclosions. Et il poursuit également le fameux débat sur le plan d'aide, qui est un espèce de parachute financier pour aider les Américains à traverser cette période. Et l'autre chose, vous savez qu'on est le 4 mars et qu'aux États-Unis, vous avez les militants QAnon qui voient cette date comme le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que le 4 mars, c'est la date historique de l'assermentation du nouveau président. C'était comme ça au début de la Constitution américaine. Il y a eu un changement plus tard qui a déplacé la date vers le mois de janvier. Et là, dans les adeptes des théories du complot, c'est aujourd'hui que le président Trump revient parce que sa victoire est légitime. Et là, il faut voir le déploiement des mesures de sécurité au Capitole. Les sessions sont suspendues. C'est pas des farces, là. C'est un Capitole complètement protégé. Parce que les services policiers, les services de renseignement disent que vous avez des, ce qu'on appelle des terroristes intérieurs qui ont comploté et qui visent à poser des gestes d'éclat aujourd'hui. Est-ce que ce sera au Capitole ou ailleurs? On avait ces mêmes types d'informations lors de la sermentation. Mais dans certains cercles, disons que ça circule beaucoup. Et en passant, c'est une des premières fois où on parle de l'existence de ces milices comme étant une forme de terrorisme intérieur. On l'a déjà fait, mais on est de plus en plus conscient que ce sont des groupuscules, mais aussi des gens qui se parlent, puis des gens qui s'organisent, puis qui complotent, puis des gens aussi qui planifient comme ça des gestes d'éclat. Il est 6h21. Toujours la métropolitaine.